débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute de ce premier débat de la rentrée sur Radio France Internationale. Alors tout l'été, des dizaines de milliers de migrants ont continué d'affluer en Europe, notamment au sud, par la mer, débarquant pour les plus chanceux en Grèce ou en Italie, mais aussi à l'est, via la Turquie, la Hongrie. Les autorités européennes cherchent le moyen, non pas d'endiguer le flot, cela semble impossible, mais de le maîtriser pour éviter la répétition des drames qui alimentent les journaux au quotidien. Une réunion des ministres de l'Intérieur européens est prévue le 14 septembre prochain pour trouver, dit-on, des solutions concrètes. Alors, existe-t-il une réelle volonté de prendre le problème à bras-le-corps, de revoir et d'harmoniser les politiques d'accueil? L'Europe peut-elle, veut-elle faire face à l'afflux de migrants? On va en parler ce soir avec deux invités. Je vous les présente tout de suite. Jean Arthuis est député européen centriste, où il préside la commission des budgets. Il est l'auteur d'un livre récent qui s'appelle « L'Europe, dernière chance pour la France » aux éditions Kalman-Lévy. Bonsoir à vous, Jean Arthuis.
Bonsoir.
Et puis, Benjamin Stora est lui historien, président du musée de l'histoire de l'immigration. Et votre dernier livre s'intitule « Les clés retrouvées ». C'est édité chez Stock. Bonsoir à vous, Benjamin Stora.
Bonsoir.
Alors, est-ce qu'on a raison, tout d'abord, de critiquer l'Union européenne pour sa difficulté, disons, à faire face à cette crise migratoire qui se révèle depuis quelques mois en Europe? Jean Arthuis.
Je crois que on fait le procès de l'Europe, mais en fait, il faut être conscient que les institutions européennes dysfonctionnent. Et pourquoi dysfonctionnent-elles? Parce que nos chefs d'État et de gouvernement essaient de prolonger l'illusion selon laquelle ils auraient encore en main toutes leurs prérogatives de souveraineté, en matière militaire, en matière diplomatique, en matière de lutte contre les paradis fiscaux, en matière de migration, d'énergie, bref, les grandes causes. Et ce faisant, ils donnent en spectacle leur impuissance politique. Et c'est ça qui fait l'exaspération de nos concitoyens. Alors, on voit bien que, par rapport aux migrations, s'il n'y a pas une mise en commun des réglementations, des moyens mis en œuvre et un véritable commandement. La semaine dernière, j'entendais le président de la République devant les ambassadeurs, puisque les ambassadeurs se réunissent à Paris tous les ans à la fin du mois d'août, et le président disait qu'il faudrait qu'il y ait des gardes-frontières. Mais s'il y a des gardes-frontières, qui va commander? Qui va piloter? Ça suppose donc que nos chefs d'État et de gouvernement acceptent d'aller vers une forme de gouvernement fédéral de l'Union européenne. Faute de quoi, en matière de migration, on voit bien que l'Europe reste une addition d'égoïsmes nationaux. Il y a partout de l'incohérence, de la compétition. Le droit d'asile, qui manifestement est un droit imprescriptible, que nous devons respecter. Mais nous devons aussi bien faire la différence entre celles et ceux qui viennent vers l'Europe parce que dans leur pays, ils sont menacés par la guerre, par leur violence, on porte atteinte à leur vie, à leur devenir. Ceux-là, on doit les accueillir dignement. Mais il y a toutes ces cohortes de migrants économiques qui quittent leur pays parce que la misère, parce que peut-être la sécheresse, en tout cas des conditions économiques telles qu'ils pensent qu'ils vivraient mieux dans l'Union européenne. Mmh. Et on voit ces cohortes qui franchissent les frontières comme si c'était une porte grande ouverte, une véritable passoire.
Bon, il y a deux points là que vous venez d'évoquer. Alors, je voudrais interroger Benjamin Stora sur peut-être le premier, l'instance à l'échelle européenne qui pourrait éventuellement prendre des décisions. Est-ce qu'elle existe? Manifestement pas, pour résoudre donc ou réduire les problèmes. Et puis, cette question de la sélection des migrants qu'évoque Jean Arthuis.
Effectivement, il y a plusieurs questions dans ce drame, cette tragédie, cette crise énorme et inouïe qui traverse et qui secoue l'Europe aujourd'hui et qui a pris par surprise les dirigeants européens, car ils n'avaient pas anticipé véritablement, à mon sens, ce qui devait se dérouler et ce qui se déroule actuellement sous nos yeux. Et ce qui prouve d'ailleurs à quel point ce manque d'anticipation politique nous dit la faiblesse politique de l'Europe, bien entendu. Jean Arthuis vient de le souligner à juste titre. Nous sommes face à une sorte d'impuissance politique, à pouvoir coordonner à la fois les politiques de droit d'asile, bien entendu, ça paraît évident, mais aussi en termes d'accueil. On le voit, la différence qui existe avec les pays de l'Est. Laurent Fabius vient de critiquer très sévèrement ce qui se passe à l'Est avec la construction de ce mur en Hongrie. Donc il y a effectivement cette sorte de dysfonctionnement, j'allais presque dire même d'opposition et de contradiction entre différents chefs d'État européens et qui paralyse précisément le fonctionnement en Europe aujourd'hui de cette question migratoire. Mais il y a aussi le fait que nous ne pouvons pas attendre une sorte de rétablissement, une sorte de fonctionnement classique et normal des institutions européennes pour commencer à régler cette question. Il faut la prendre immédiatement à bras-le-corps parce que des dizaines de milliers de personnes maintenant font mouvement vers l'Europe, voire des centaines de milliers. Et parmi ces centaines de milliers de personnes, comment faire le tri? Tout le problème est là, précisément. C'est ça, c'est la seconde question que vous soulevez. Comment faire le tri entre ceux qui fuient la guerre, la persécution, la violence des États, ou l'absence d'État même, puisqu'on a des pays où l'État est littéralement effondré. Et ça, c'est le problème du manque d'anticipation politique que je soulevais tout à l'heure. C'est aussi cette absence de réflexion sur l'effondrement des États suite aux révolutions arabes, qui ont été des échecs politiques. Il faut le dire la vérité. Je veux dire que le passage de la démocratie politique n'a pas eu lieu. Dans la plupart de ces pays. Et donc, on a assisté à un effondrement de ces États, des crises énormes. En Libye, bien entendu. La France, naturellement, n'est pas exempte de reproches. Ça a déjà été dit, souligné, je n'y reviens pas. Bon, ce qui se passe en Syrie, bien sûr. Ce qui se passe en Irak, bien entendu, avec le fait que la Jordanie, la Turquie, le Liban, qui est très menacé, reçoivent des centaines de milliers de réfugiés, et y compris un petit pays comme la Tunisie, qui abrite aujourd'hui près de 400 000 personnes. Alors, comment précisément faire ce tri entre ce que l'on appelle les immigrés, disons économiques, parce qu'on n'emploie plus le terme d'immigrés, d'ailleurs, ça me frappe, parce qu'on parle maintenant de migrants. Alors, ce sont ni des immigrés, ni des demandeurs d'asile. Alors, comme on n'a pas tranché, alors on a employé un mot valise, un mot intermédiaire, nouveau, dans le vocabulaire journalistique et politique d'aujourd'hui, qui est le mot migrant.
Oui, qui est contesté lui aussi.
Voilà, donc de sorte qu'on a affaire à des populations qui sont en migrance, c'est-à-dire en errance perpétuelle. Alors, il faut effectivement, je crois, dire que la priorité aujourd'hui, c'est mon point de vue, c'est la question des réfugiés. C'est la priorité politique et humanitaire.
Donc la politique de demande d'asile, est-ce qu'il faut l'harmoniser et comment l'harmoniser, Jean Arthuis, vous qui êtes à l'Europe et au,
il faut aller d'abord, on voit bien d'abord, toute politique migratoire doit être marquée par une vraie maîtrise. Quel contraste entre l'image des contrôles auxquels on procède dans des aéroports, par exemple. On vérifie tous les papiers. Et puis, ces cohortes de migrants qui franchissent irrégulièrement les frontières. Tout à l'heure, vous évoquiez les critiques de Fabius contre les responsables hongrois pour être tentés d'endiguer tous ces flux qui se substituent à la Méditerranée. Mais il faut quand même bien que c'est une chose de mettre des barrières, c'est une autre d'avoir des portes d'accès et de contrôler ces accès. Et il me semble qu'on devrait mettre en commun ces capacités pour contrôler l'accès et d'avoir un droit d'asile unique en Europe. Totale convergence du droit d'asile avec des procédures d'examen du bien fondé du droit d'asile qui soit la même partout. Aujourd'hui, on peut être tenté d'arriver dans un pays, de refuser l'identification à laquelle on est tenu du fait des accords de Dublin.
Rappelez rapidement ce que
c'est. Alors, les accords de Dublin disent que quand on arrive dans un pays, lorsqu'on pénètre dans ce pays, c'est ce pays-là qui doit procéder à votre identification, prend votre portrait en photo, vos empreintes digitales, et puis c'est dans ce pays que vous demandez l'asile. Et c'est ce pays qui va trancher au bout de quelques mois ou de quelques années avec des procédures d'appel, ce qui fait que, au fond, tous ceux qui arrivent irrégulièrement dans un pays, quel qu'il soit, qui franchissent les frontières extérieures de l'Europe, demandent systématiquement l'asile, ce qui est un dévoiement de la procédure de demande d'asile, car nombre de ces demandes d'asile ne sont pas fondées, ne sont pas justifiées. Nous avons des pays même qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne, dont des ressortissants viennent demander l'asile, ce qui n'a vraiment pas de sens.
Bon, il faut se débarrasser de cette règle-là.
Donc, ces règles-là, il faut qu'on ait les mêmes règles partout, et ça doit quand même être... Si on met en commun les informations diplomatiques pour savoir que dans tel pays, il y a des circonstances qui font que ceux qui viennent de ce pays peuvent être admis comme réfugiés et qu'on les accueille dignement, mais que ceux qui sont dans le cadre de migration économique puissent être renvoyés immédiatement, très rapidement dans leur pays d'origine, faute de quoi ils s'installent dans le paysage. Et on voit d'ailleurs qu'il va y avoir une espèce de shopping des réfugiés, parce que les conditions d'accueil ne sont pas les mêmes. Dans tel pays, vous serez indemnisé, vous serez logé, vous aurez droit à accéder au travail. En Allemagne, aujourd'hui, on permet au bout de 3 mois d'être salarié dans des entreprises. Et ça convient au patronat allemand, parce qu'il manque de manœuvre. Mmh. Et dans d'autres pays, on va devoir attendre 9 mois ou quelquefois plus. Donc, il y a des stratégies, parce que ce sont pas les mêmes règles partout. D'accord. Donc, l'urgence, c'est l'unification de ces règles et la mobilisation de moyens suffisants. Et au-delà, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des politiques de développement pour essayer de tarir les flux migratoires. D'accord. Et donner de bonnes raisons à ceux qui viennent vers nous de rester chez eux, parce qu'on les aide à se développer. Et si ces pays acceptent ce développement, en contrepartie, ils doivent accepter le retour immédiat de leurs ressortissants qui arrivent chez nous sous le statut de migrants économiques.
Bon, laissons réagir Benjamin Stora à vos propos.
Je pense qu'il y a effectivement un énorme problème que révèle cette crise, c'est l'écart qui se creuse malheureusement entre le Nord et le Sud, voilà. C'est-à-dire qu'on a effectivement, indépendamment de la question des guerres, qui a accéléré le processus, bien entendu, l'effondrement des États, les guerres civiles, les guerres intérieures, bien entendu, qui provoquent des déplacements de population. Ajoutons à cela, bien sûr, les questions climatiques, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, aujourd'hui, les réfugiés climatiques, qui viennent, disons, en plus de tout le reste. Mais, fondamentalement, le fait que dans une grande partie de la jeunesse en Afrique, par exemple, ou ailleurs, on continue de regarder vers le Nord, on continue d'espérer, de vouloir partir vers le Nord, prouve quand même qu'il y a, toujours et encore, ce problème de fossé qui ne s'est pas comblé entre le Nord et le Sud. Mmh. On en parle tout le temps du co-développement, d'aider les pays en voie de développement, de faire en sorte que ces jeunes puissent trouver du travail sur place et espérer sur place. Eh bien, on n'arrive pas quand même, il y a un épuisement même dans la croyance au co-développement. En Europe et en France en particulier, il faut le dire. On a beaucoup utilisé ce terme dans les 20 dernières années et on n'arrive pas, disons, à le matérialiser, à le rendre concret, à le rendre effectif dans la pratique, dans la vie quotidienne des populations subsahariennes ou au nord de l'Afrique ou dans le bassin méditerranéen. Et ça n'arrive pas à s'incarner. De sorte qu'on est dans une situation où on veut partir, on veut s'arracher à sa terre natale, ce qui n'est jamais de gaieté de cœur d'ailleurs, par parenthèse. Et c'est ce problème du renversement dans les imaginaires qui n'arrive pas à être pris en charge et à être opérant. Et ça, c'est une question très très difficile à régler, à la fois pour les gouvernements et les États, mais aussi de la responsabilité des intellectuels en Europe et des intellectuels de ce qu'on a appelé auparavant le tiers-monde, c'est-à-dire, qu'on n'appelle plus maintenant le tiers-monde, on parle des pays émergents, etc., mais qui reste encore, à mes yeux, aussi le tiers-monde, quelque part. Alors, et là, il y a une responsabilité qui peut pas être simplement qu'économique, mais qui est aussi culturelle, qui est aussi symbolique, qui est aussi intellectuelle et idéologique, dans le fait qu'on a des batailles démocratiques à livrer dans la plupart de ces pays, et qu'il faut les mener sur place, ces batailles politiques, ces batailles démocratiques et ces batailles symboliques, et c'est pas par la migration qu'on va régler les questions. Mais en même temps, les gens sont fatigués d'attendre les solutions démocratiques et décident de partir.
Alors, est-ce que ça veut dire que les aides au développement de l'Union européenne doivent être accompagnées de conditions plus strictes, on va dire, pour encourager une gouvernance juste et les réformes politiques adéquates dans les pays d'où viennent ces migrants, oui. Jean Arthuis?
Oui, je crois qu'il y a des vraies conventions de développement. Or, aujourd'hui, les pays membres de l'Union européenne ont tendance à vouloir garder la main sur leur politique nationale de développement parce que ils ont des liens historiques privilégiés avec tel ou tel pays. L'efficacité n'est pas là. Donc, il faut vraiment une ambition forte et avoir les moyens de son ambition. Quand j'entends dire qu'on doit consacrer 0,7% du PIB au développement, c'est formidable. Mmh. Mais pour des pays qui sont chroniquement en déficit et en surendettement, il y a des vraies réformes à introduire dans le mode de gouvernance des pays de l'Union européenne pour être en mesure de développer une vraie politique de développement. Parce que bien souvent, quand on dit, voilà, telle personne n'a pas droit à l'asile et donc doit repartir dans son pays d'origine. Mais les pays d'origine refusent de les accueillir et on ne peut rien faire. Donc il me semble qu'il devrait y avoir une convention au terme de laquelle, si on vous aide avec un vrai projet, si on vous aide à donner de la stabilité et de l'autorité à votre État et à donner un souffle nouveau à votre économie, eh bien, en contrepartie, vous faites ce qu'il faut pour tarir les flux migratoires vers l'Europe. Et s'il y a des ressortissants de chez vous que l'on retrouve en Europe, vous acceptez sans délai, sans barguiner, qu'ils puissent être retournés dans le pays d'origine. Il faut aussi, je crois, c'est Jean-Louis Borloo qui essaie aujourd'hui, je l'ai rencontré récemment, il me faisait voir une photographie de la Terre où l'on voit, c'est pris dans la nuit, et on voit où il y a de la lumière. Il y a de la lumière en Europe, mais en Afrique, c'est une zone très sombre. Et donc, si l'on veut tarir ces flux migratoires, eh bien, il faut aller mettre de l'énergie dans ces pays, dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est autour de cela, me semble-t-il, au-delà des mots, que les Européens devraient se rassembler pour être conséquents et que la référence à l'humanisme ne soit pas simplement un slogan.
Alors j'en viens à l'historien, parce que le temps passe très vite, on est pratiquement à la fin de l'émission. Et je voudrais voir avec vous, Benjamin Stora, si ce flux est sans précédent, comme on le dit parfois, ou bien est-ce qu'on a connu des situations similaires dans le passé ? Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire qui pourraient nous donner du recul sur les bénéfices et les préjudices, je dirais, d'un afflux massif de migrants et de réfugiés?
Sur les précédents historiques, pour aller vite, qu'a connu la France, il y a eu en 1939 le passage des Pyrénées de centaines de milliers de réfugiés espagnols qui fuyaient le franquisme, les républicains espagnols, 500 000, c'est considérable. Il y a eu, disons, le passage de centaines de milliers, voire de millions de personnes dans la frontière Oder-Neisse en 45 avec entre l'Allemagne et la Pologne. Donc, ça a été des mouvements gigantesques, mais à l'intérieur de l'Europe, ces mouvements ont lieu. Ce qui est nouveau, c'est que c'est des mouvements qui viennent de l'extérieur de l'Europe. C'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire le mouvement migratoire de centaines de milliers de personnes aujourd'hui et qui ne va pas s'arrêter vient précisément de pays qui n'appartiennent plus, qui n'appartiennent pas, disons, à ce qu'on appelle aujourd'hui la zone européenne. Et cette question-là, elle nous renvoie à un problème de mondialisation sur le plan politique, symbolique et culturel, sur la question migratoire. C'est-à-dire que je crois que les Français seuls, et j'allais même presque dire les Européens seuls, ne pourront pas s'en sortir s'il n'y a pas une réflexion mondiale sur cette question des migrations. On a commencé à le voir avec le problème du climat, par exemple. Mais une conférence mondiale avec la participation de pays très importants comme les États-Unis, par exemple, sur la question migratoire, qui eux-mêmes sont confrontés à ces questions-là, est à mon avis quelque chose de tout à fait nécessaire. Il faut réfléchir politiquement à ces questions-là. Il y avait d'autres questions comme, par exemple, l'Union pour la Méditerranée qui avait été avancée à un moment donné, bon, qui a échoué, on le sait, bon, pour des tas de raisons. Mais il y avait une idée derrière cela. C'était d'essayer d'harmoniser politiquement les choses entre les États du Sud et du Nord de la Méditerranée.
Oui, mais l'Europe n'avait pas été associée à cette démarche.
Oui, tout à fait.
Et c'est ça le problème, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ont tendance à en faire des affaires plutôt personnelles.
Tout à fait. Non, mais bien sûr.
Et donc, en contrepartie, il y a eu les initiatives par les pays du nord de l'Europe pour s'ouvrir plutôt vers les pays de l'Est, notamment l'Ukraine.
Tout à fait. Non, mais je pense qu'il faudrait une harmonisation, j'allais dire, mondialisée de ces questions-là.
Alors, il faut organiser le monde. La mondialisation est là.
Oui.
Et il faut organiser ce monde. Mais c'est pas la France à elle seule ou l'Allemagne à elle seule qui pourra le faire. Si en revanche, les Européens participent à des conférences et essaient de parler d'une seule voix, et non pas en ordre dispersé, d'une façon cacophonique, comme des boutiquiers, en quelque sorte. Si enfin les Européens ont cette sagesse, alors oui, je pense qu'ils peuvent efficacement contribuer à l'organisation du monde pour que le monde soit plus humain, plus équilibré.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est là la conférence mondiale sur le climat, par exemple, qui aura lieu en novembre, bon, qui peut être l'occasion d'une première réflexion, parce que la question du climat et de l'écologie, c'est aussi une grave et grande question sur les migrations.
Certainement. Mais il faudrait des actes européens et une vraie politique.
Oui.
Et une politique qui soit assumée par l'ensemble des Européens.
Allez, on n'a pas le temps d'en dire plus, malheureusement. Il est l'heure de nous quitter. On y reviendra, bien sûr. Merci à tous les deux de votre analyse de la situation. Benjamin Stora, historien, président du musée de l'histoire de l'immigration. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les clés retrouvées chez Stock. Et Jean Arthuis, député européen, président de la commission des budgets, auteur de L'Europe, dernière chance pour la France. La France est aux éditions Calman-Lévy. Merci également à Florence Ponce et Valentin Vaner qui ont préparé et réalisé cette émission que vous pouvez retrouver et télécharger sur notre site. Demain, c'est Mardi Politique RFI reçoit premier invité de la saison, Jean-Marie Le Guen. Merci à tous. Bonsoir.